VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Anastasie Tudiache avec vous. Bonsoir à toutes et à tous en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire, élection présidentielle au Rwanda. Après 23 ans au pouvoir, Paul Kagame est largement favori. La Mauritanie à la veille d'un référendum sur les révisions constitutionnelles. L'opposition dénonce une fraude à grande échelle. En Côte d'Ivoire, quatrième attaque d'un commissariat de police à l'ouest d'Abidjan. Et en République démocratique du Congo, l'ONU dénonce l'exécution sauvage de plus de 200 personnes, dont des enfants, dans le Kasaï. Le monde aujourd'hui, c'est aussi l'actualité économique et le sport. Mais d'abord, place au journal. Les Rwandais ont donc voté. Le scrutin s'est déroulé dans le calme tout au long de la journée et a été marqué par une forte mobilisation des électeurs. Charlie Kasereka fait le point pour nous depuis Kigali.
Tout s'est passé dans le calme et transparence selon les responsables de la Commission électorale nationale. Très tôt, à 7h déjà, les premiers électeurs arrivés dans différents centres ont glissé leur bulletin de vote dans les urnes. Le président sortant Paul Kagame, accompagné de sa famille, a glissé son bulletin dans l'urne dans un bureau près du centre-ville de Kigali vers 11h. Pour les deux autres candidats à l'USE, à savoir Philippe Mpayimana et Franck Habineza, ont fait la même chose accompagnés de leurs partisans dans les bureaux situés au sud de la capitale rwandaise. Environ 7 millions d'électeurs étaient attendus pour ces élections. Dès la mi-journée, l'on annonçait déjà 80% des taux de participation. Ce soir, les partisans du parti au pouvoir, les FPR, sont confiants et restent convaincus, certains se préparent déjà à la fête pour la victoire visible de leur candidat Paul Kagame. Charlie Kasereka depuis Kigali pour VOA Afrique.
Les Mauritaniens votent demain samedi pour un référendum constitutionnel prévoyant notamment la suppression du Sénat. Les forces armées et de sécurité ont voté ce vendredi. Nathalie Barge.
Ce scrutin se déroule dans un climat alourdi par des accusations réciproques entre le président Mohamed Ould Abdelaziz et des sénateurs et par l'appel au boycott de l'opposition radicale. Le projet de révision constitutionnelle porte sur le remplacement du Sénat par des conseils régionaux élus, la suppression de la Haute Cour de justice, du médiateur de la République et du Haut Conseil islamique et une modification du drapeau national. La police a dispersé jeudi à coups de gaz lacrymogène et de matraques des opposants qui tentaient de se rassembler à Nouakchott. Le vote est précédé ce vendredi par celui des membres des forces armées et de sécurité pour lesquels 70 bureaux sont réservés, dont une dizaine à Nouakchott. Le nombre de votants militaires est tenu secret et leurs urnes ne seront comptées que demain, en même temps que les votants civils, a déclaré la commission électorale. Les résultats sont attendus en début de semaine prochaine.
Le commissariat de police de la ville d'Adzopé, à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Abidjan, a été attaqué par des hommes armés qui ont emporté 2 millions de francs CFA. Cette attaque est la quatrième en moins d'un mois dans un pays habitué à des mutineries. À Abidjan, notre correspondante Narita Namasté.
Azopé ville située à 102 kilomètres d'Abidjan, a enregistré la quatrième attaque perpétrée par des éléments non identifiés. Le commissariat de police de la dite ville a été la cible d'attaque entre 4 et 5 heures du matin GMT. Ces assaillants, dans leur forfaiture, ont caillassé des stations d'essence et emporté la somme de 2 millions de francs CFA. Le mode opératoire observé à Azopé rappelle les attaques de Fresco au sud-ouest du pays le 28 juillet et d'Azagué le 22 juillet dernier. Selon le porte-parole du gouvernement Bruno Nabanekone, 8 personnes ont été arrêtées, dont 6 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire et 2 civils depuis le début de ces attaques. Le président Alassane Ouattara, qui fait face à d'incessantes mutineries, 4 dans le seul mois de juillet, a récemment procédé à un réaménagement technique du gouvernement. Ahmed Bakayoko, l'un de ses fidèles lieutenants qui occupe désormais le portefeuille du ministère de la Défense, poursuit ses rencontres avec la hiérarchie militaire. Narita Namasté, Abidjan, VOA Afrique.
Au Bénin, Léadi Soglo, maire de Cotonou, a été révoquée de ses fonctions. La présidence annonce la suspension de l'édile et précise qu'il lui est reproché la vente ou l'aliénation abusive des biens domaniaux, la violation des règles de déontologie administrative, l'augmentation des frais de représentation, la distorsion de ressources financières et l'effacement de traces de documents administratifs. Monsieur Soglo, fils de l'ancien président Nicéphore Soglo, fait également l'objet d'une enquête policière. Au Togo voisin, plusieurs milliers de partisans de l'opposition ont participé hier à une marche à Lomé pour exiger des réformes constitutionnelles limitant le nombre de mandats présidentiels et pour réclamer une modification du mode de scrutin. Selon la constitution togolaise, les mandats présidentiels ne sont pas limités. Le baccalauréat, premier diplôme universitaire, est difficile à obtenir. Seuls 5,74% des candidats ont été admis au premier tour en Centrafrique, 14,81% au Gabon, 27,66% au Congo-Brazzaville et 46% au Cameroun. En République démocratique du Congo, le chef rebelle Cheikh Thabo Ntaberi, poursuivi pour crimes contre l'humanité et viol massif avec sa milice en 2010 dans l'Est congolais, a été remis aujourd'hui aux autorités de Kinshasa, 9 jours après sa reddition, c'est ce qu'a déclaré la mission locale de l'ONU. Cheikh Thabo Ntaberi a été remis aux autorités de Kinshasa, selon Fabienne Pompey, porte-parole de la mission de l'ONU. Le président angolais José Eduardo dos Santos, qui doit quitter ses fonctions d'ici la fin du mois, a inauguré aujourd'hui à Lauka, dans l'ouest du pays, le plus grand barrage hydroélectrique du pays et l'un des plus puissants à terme du continent africain. Le barrage doit permettre de réduire les coupures d'électricité en Angola et d'approvisionner en électricité quelques 8 millions de personnes. Les autorités éthiopiennes ont levé l'état d'urgence instauré en octobre 2016. Selon le ministre de la Défense, plus de 21 000 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'état d'urgence, lequel avait été prolongé de 4 mois en mars. Sur ce total, les 2/3 ont été relâchés après avoir suivi un programme de rééducation, mais 7 700 sont encore sous le coup de poursuites judiciaires. L'état d'urgence avait été instauré pour faire face à une vague de manifestations sans précédent, violemment réprimée par les forces de l'ordre. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen et chef d'une force autoproclamée Armée nationale libyenne, a ordonné à ses troupes d'empêcher l'entrée de navires étrangers dans les eaux libyennes, selon un porte-parole.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Actualité internationale à présent. Au Venezuela, la séance inaugurale de l'Assemblée constituante, controversée, voulue par le président socialiste Nicolas Maduro, a débuté aujourd'hui au Parlement vénézuélien. Morgane Guériac.
Nous inaugurons l'Assemblée nationale constituante du peuple vénézuélien rebelle, a déclaré en début de séance le doyen des élus. L'ex-chef de la diplomatie vénézuélienne, Delcy Rodriguez, a été élue présidente de la constituante voulue par le président Nicolas Maduro. « Je promets de défendre la patrie de toute agression ou menace », a déclaré cette avocate de 48 ans, un drapeau vénézuélien et un exemplaire de la constitution à la main. Les partisans de M. Maduro manifestaient à l'extérieur. L'opposition avait également appelé à protester. Doté de pouvoirs illimités durant un temps indéfini, les 545 membres de la Constituante appartiennent tous au camp présidentiel. La Constituante aura pour mission de réécrire la Constitution, a été entachée par des violences qui ont fait 10 morts et plus de 120 personnes ont été tuées en 4 mois de manifestations.
Un migrant économique a été tué ce vendredi lors de l'effondrement du toit d'un entrepôt abandonné dans le port de Patras, dans l'ouest de la Grèce, selon la police. Un autre homme a été également blessé. Patras, troisième ville de Grèce, est une porte qui mène à l'Italie pour de nombreux migrants qui vivent dans des conditions précaires autour du port. L'armée israélienne a arrêté un député palestinien, membre du Hamas, dans sa maison en Cisjordanie occupée. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui le club des prisonniers palestiniens. Mohamed Abou Tir, 65 ans, a été arrêté chez lui, près de Ramallah, lors d'une descente policière. Les autorités israéliennes ne se sont pas pour l'heure exprimées sur les raisons de cette arrestation, qui intervient seulement 2 mois après la libération de M. Abou Tir, au terme de 17 mois d'emprisonnement. L'influent chef chiite irakien Moqtada Sadr a appelé Bagdad à saisir les armes circulant dans le pays, notamment celles des groupes paramilitaires, devant des milliers de partisans dans le centre de la capitale irakienne. Moqtada Sadr rentrait d'une très rare visite en Arabie Saoudite, où il s'est rendu la semaine dernière à l'invitation des responsables du royaume sunnite. L'Union européenne durcit le ton contre la Russie. Trois personnes, dont le vice-ministre russe de l'énergie, sont ajoutées à la liste noire de l'Union européenne qui leur interdit de voyager en Union européenne et gèle leurs fonds sur son territoire. C'est ce qu'a indiqué le Conseil de l'Union dans un communiqué. Cette décision vient sanctionner le détournement vers la Crimée de quatre turbines à gaz livrées par l'industriel allemand Siemens. Le Sénat américain a mis fin à sa session parlementaire et part en vacances aujourd'hui, ce qui oblige le président Trump à attendre au moins la rentrée pour remporter sa première victoire législative, d'autant plus que les parlementaires l'ont empêché de procéder à des nominations en leur absence. Cette décision, prise à l'unanimité par les 100 sénateurs, est un avertissement envoyé au président au cas où il se déciderait à renvoyer son ministre de la Justice, lui-même ancien sénateur, Jeff Sessions. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco. Elle est présentée ce soir par Ekia Badou.
Le Rwanda élit ce vendredi son président, Paul Kagame brigue un troisième mandat. En économie, son équipe a fait le pari sur le développement des services, aéroports, centres de conférences. Le gouvernement de Kigali a massivement investi dans les infrastructures pour passer du statut d'État à faible revenu et majoritairement rural à celui de pays à revenus élevés avec une économie centrée sur les services. C'est un projet ambitieux dans un pays où 39% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. L'opérateur de téléphonie sud-africain MTN et le réseau social Facebook ont conclu un partenariat en Côte d'Ivoire pour permettre à leurs 14 millions d'abonnés d'accéder gratuitement à des sites concernant la santé, l'éducation, le sport et des offres d'emploi. Cette fonctionnalité pourrait réduire la facture numérique des consommateurs ivoiriens. La Côte d'Ivoire est le quatrième pays où s'est établi un tel partenariat après le Bénin, la Zambie et la Guinée-Bissau. La compagnie britannique Tullow veut creuser 13 puits dans la zone dite TEN entre le Ghana et la Côte d'Ivoire qui s'opposent toujours sur leur territoire maritime. Le Tribunal international du droit de la mer doit délimiter le nouveau tracé. Au cœur de la discorde, les gisements de pétrole offshore exploités par le Ghana depuis 2010. L'objectif de la compagnie britannique est de passer de 50 000 à 80 000 barils de pétrole par jour.
Face au sport à présent avec vous, Nicolas Pineau, bonsoir.
Bonsoir Anastasie, bonsoir à tous.
Alors, présentation officielle aujourd'hui de la recrue superstar du Paris Saint-Germain, j'ai nommé Neymar.
L'étoile brésilienne a débarqué ce vendredi dans la capitale française. Je veux quelque chose de plus grand, je veux un plus grand défi, a précisé Neymar. Pour l'ambition de ce club très semblable à la mienne, a-t-il déclaré à propos du Paris Saint-Germain. Cela a été l'une des décisions les plus difficiles de ma vie, a-t-il ajouté. Samedi, Neymar sera présenté au Parc des Princes avant la reprise de la saison en championnat de France avec un match face au promu Amiens. On rappelle qu'avec 30 millions d'euros, le salaire net annuel selon les estimations, Neymar devient le deuxième joueur le mieux payé au monde derrière les 38 millions d'euros de Carlos Tevez en Chine, mais désormais devant les deux meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi, 25 millions au Barça, et Cristiano Ronaldo, 23,6 millions d'euros au Real Madrid.
Football toujours, Nicolas, report du match Sénégal-Guinée du 12 août prochain.
Le match aller Sénégal-Guinée du deuxième et dernier tour des qualifications du championnat d'Afrique des Nations 2018, le CHAN, a été reporté au 15 août. C'est ce qu'indique la Fédération guinéenne de football, la FEGIFOOT, qui précise que cette décision a été prise par la Confédération africaine de football à la demande de la partie sénégalaise. Le match était initialement prévu le 12 août à Pékin, dans la banlieue de Dakar, date à laquelle doit également se tenir l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football. Le match retour, lui, sera disputé à Conakry, le 22 août.
Allez, athlétisme maintenant. Coup d'envoi ce vendredi des championnats du monde.
La superstar de l'athlétisme Usain Bolt livre demain l'ultime bataille de sa prodigieuse carrière sur 100 mètres lors de ces mondiaux 2017 qui débutent à Londres. À 25 ans, on suivra également sur 400 mètres le Sud-Africain Van Niekerk, champion du monde et champion olympique et recordman de la distance. Son compatriote Louvo Manyonga, deuxième des JO 2016 à la longueur, pourrait toutefois être le premier à apporter une médaille d'or à l'Afrique du Sud. Sur 10 000 mètres, l'Éthiopienne Almaz Ayana, qui avait établi le record du monde de la distance en 29 minutes, 17 secondes et 45 centièmes, eh bien l'Éthiopienne partira favorite.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiache avec vous pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci pour votre fidélité. Place au dossier du jour. Fin de vote au Rwanda, l'heure est au dépouillement des bulletins dans les centres de vote. Sur les trois candidats, le président sortant Paul Kagame est largement favori. Sur le déroulement du scrutin, Charlie Kasereka fait le point pour nous depuis Kigali.
Une forte mobilisation pour ces élections. Déjà à ces terres locales, les premiers électeurs arrivés dans différents centres ont glissé leur bulletin de vote dans les urnes. Jean-Claude, la trentaine, devant lui, une dizaine d'autres électeurs sur la file d'attente. Pour lui, les choix sont clairs.
Maintenant, nous n'avons plus de problème. Nous sommes très fiers de lui ici au Rwanda. Il nous soigne bien, nos enfants étudient bien. Pour les noms des opposants, je les écoute seulement à la radio, mais je ne maîtrise pas leurs noms vraiment.
Difficile de trouver ici quelqu'un qui parle du contraire de la majorité par peur d'ignorer voisine. Certains n'ont même pas la force de prononcer les noms des opposants. Les observateurs dépêchés pour ces élections sont satisfaits du déroulement. Amouké Eba est le chef de la délégation d'une commission d'observateurs de la diaspora africaine en Europe.
Là, je sens même des coups de fil partout que les électeurs sont mobilisés à voter. Vous savez, puisque la fête du bureau de vote à 15h, donc nous pensons que le taux de participation sera très élevé. Parce qu'une élection, c'est avant, pendant et après. On doit déployer pour qu'on puisse voir dans l'ensemble.
La commission électorale nationale du Rwanda parle d'un fort engouement depuis tôt le matin et pense que c'est un bon signe. Jean Bosco était un agent électoral chargé du district de Kigali.
Et puis c'est à 15h qu'on commence le dépouillement. Même la population sera là, comme d'habitude. Et dès que les informations arrivent, ça va directement dans le district. Le district, ça va directement à la commission électorale. C'est-à-dire que ça va prendre du temps, mais pas beaucoup. Non, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de population, comme vous l'avez remarqué. C'est la fête. Normalement, les élections au Rwanda, c'est la fête.
Et près de 7 millions d'électeurs étaient invités aux urnes aujourd'hui pour élire leur président. Dans la mi-journée, l'on annonçait déjà 80% des taux de participation, alors que le président sortant Paul Kagame reste le grand favori devant ses deux challengers, Philippe Mpayimana et Franck Habineza. Ici à Kigali, les partisans du parti au pouvoir se préparent déjà à la fête, confiants de la victoire de leur candidat. Charlie Kasereka depuis Kigali pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Les Mauritaniens se rendent aux urnes demain pour se prononcer sur un projet de réforme constitutionnelle supprimant le Sénat et modifiant le drapeau national. Mais la majorité de l'opposition est contre. Certains sénateurs campent en ce moment dans les locaux du Sénat en guise de protestation. Abdourahmane Dia a joint à Nouakchott le journaliste Mohamed Diop pour un état des lieux.
La campagne électorale a été bouclée de façon hier, mais sur fond de tensions, de querelles entre le pouvoir et l'opposition. La première partie dit oui et l'autre juge que ces réformes constitutionnelles sont inutiles. Et il faut aussi comprendre qu'il y a presque un groupe de sénateurs, en tout cas, qui sont contre ces textes, qui sont en sitting dans les locaux même du Sénat pour que le référendum soit annulé.
Ces sénateurs ne sont pas contents principalement parce que leur institution va être supprimée. Est-ce que c'est le cas?
Voilà, déjà, il y avait ces mêmes sénateurs qui avaient bloqué le projet de modification de la Constitution parce que le texte avait été fait passer au Parlement. L'Assemblée nationale l'avait passé, le Sénat l'avait bloqué. Et peut-être sans doute parce que aussi, dans ces réformes constitutionnelles ou dans ces modifications en tout cas constitutionnelles, il est prévu la suppression du Sénat et son remplacement par des conseils régionaux.
Quel est l'enjeu pour le président Ould Abdelaziz puisque c'est son second et dernier mandat?
Alors, l'enjeu pour le président Ould Abdelaziz, déjà parce que le président était un peu affaibli quand le Sénat avait bloqué son texte et sa séance, donc il a contourné donc le Parlement en passant par l'article 38 de la Constitution. Mais également, le président aussi veut se montrer capable ou de toute façon être toujours le maître du jeu dans ces référendums. Donc on va attendre le taux de participation qui sera déterminant dans ces élections. Ça concerne l'opposition, il pense que par ce référendum, Ould Abdelaziz chercherait à remplir pour un troisième mandat. Mais sur ce point aussi, il faut préciser que Ould Abdelaziz lui-même l'a répété, il l'a dit à plusieurs reprises, qu'il n'est pas là pour briguer un troisième mandat interdit par la Constitution.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces assemblées constituantes qui devraient remplacer le Sénat?
Qu'est-ce que, de toute façon, le régime dit pour justifier ces conseils régionaux, c'est pour développer ces régions de l'intérieur du pays. Parce que le président l'a dit dans une campagne que les autres régions sont marginalisées par rapport à Nouakchott. Donc, pour créer cet équilibre, pour diminuer ce clivage, donc, il va falloir créer des conseils régionaux qui prendront la place du Sénat.
L'analyse du journaliste Mohamed Diop, joint à Nouakchott.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans le centre de la République démocratique du Congo, selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, des centaines de personnes ont été sauvagement exécutées entre mars et juin dans le Kasaï. Yacouba Ouédraogo a joint Scott Campbell du Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève. Écoutons-le.
Nous avons documenté des attaques menées par deux milices, le résultat étant 251 personnes tuées, souvent avec des méthodes très brutales. Un grand nombre des enfants aussi tués. Très inquiétant aussi que certaines communautés étaient visées par les attaquants à cause de leur appartenance ethnique.
Vous dites qu'il y a eu assez d'enfants. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres?
62 enfants étaient tués des milices. Et un grand nombre de ces 62 enfants étaient âgés moins de 8 ans. Notre équipe a recueilli des témoignages vraiment effrayants, souvent à travers des victimes qui étaient dans des hôpitaux au nord de l'Angola et qui montraient les traces des blessures suite aux attaques, souvent des traces des coups de machette, des jambes, des bras qui étaient complètement coupés par les coups de machette ou bien qui devaient être amputés suite aux attaques. Les enfants aussi sont victimes d'une part d'une des milices qui recrute et qui utilise beaucoup d'enfants et des femmes, des filles et des garçons dans des attaques.
Est-ce que vous avez des soupçons sur les auteurs présumés?
Les auteurs présumés sont des leaders des différentes milices. Donc, d'un côté, il y a une milice qui s'appelle Kamwina Nsapu et certainement leurs leaders sont responsables pour les atrocités commises par leur milice et le recrutement, utilisation des enfants. Et de l'autre côté, il y a une milice qui s'appelle Banamura. Et cette milice a eu l'appui sur le plan local des agents étatiques, des agents de la police ou de l'armée, parfois les officiels locaux ou les chefs traditionnels.
Faire une enquête, c'est bien, mais qu'est-ce qui va se passer après?
Le haut commissaire appelle aux autorités d'assurer que les forces de maintien de l'ordre sur place jouent le rôle de protéger la population et qu'ils envoient un message très clair aux forces de maintien de l'ordre de cesser tout appui aux milices, toutes les milices soient démantelées immédiatement et qu'il y ait des enquêtes transparentes, crédibles, menées pour identifier qui exactement est responsable pour ces actes et que ces personnes soient traduites devant les juridictions appropriées.
C'était Scott Campbell qui s'exprimait pour le Haut Commissariat aux droits de l'homme.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
La France, qui comprend la plus grande population musulmane d'Europe, compte 1700 ressortissants dans les rangs du groupe djihadiste État islamique, selon des estimations. Le pays a été le théâtre d'une série d'attaques meurtrières au cours des deux dernières années. Et aujourd'hui, le projet de déradicalisation lancé par le gouvernement français il y a 2 ans pour la réinsertion de jeunes musulmans radicalisés est déjà voué à l'échec. Le correspondant de la VOA en Europe, Luis Ramirez, a voulu savoir pourquoi. Son reportage est repris ici par Jacques Aristide.
C'est ici, à Beaumont-en-Veyron, qu'a vu le jour, en septembre 2016, l'unique centre de déradicalisation de France. Son objectif, accueillir des jeunes musulmans tentés par le djihadisme et leur dispenser un programme pédagogique incluant les principes laïques de la République française et le patriotisme, le tout couronné par la Marseillaise. La ville a été favorable à l'idée au départ, mais plus maintenant, son maire, Bernard Chateau.
La plupart de la population était dans un état d'esprit de dire « Pourquoi pas, essayons de faire quelque chose ». Voilà. Seulement aujourd'hui, on fait le constat que ça ne marche pas et que ça a été un échec.
La participation était volontaire et seulement une poignée de jeunes musulmans sont venus. Et ceux qui ont pris part ont fini par faire peur aux voisins. Des habitants ont formé une association pour protester. Catherine Bideau en fait partie.
L'association n'est pas contre le traitement de la radicalisation, mais simplement on a jugé que dans ce lieu qui est Beaumont-Veyron, en milieu ouvert et habité, la déradicalisation n'avait pas sa place. Or, on a eu un fichier S, on a eu une personne avec des problèmes psychiatriques, on a eu une autre personne qui faisait partie d'une filière, l'une des plus dangereuses de France, la filière djihadiste de Strasbourg, et qui dans laquelle était le kamikaze du Bataclan. Donc on a eu des cas de figure qui vraiment prêtent à se poser la question d'une dangerosité évidente.
Les autorités n'en disconviennent pas. Le projet est un échec. Muriel Domenac, représentante du gouvernement.
Precisely my sense is that deradicalization proves so difficult.
À mon avis, la déradicalisation est très compliquée. Ce premier centre de réinsertion ne fait pas l'unanimité. On nous a imposé des critères très restrictifs et en fin de compte, ça n'a pas marché.
Pourquoi la déradicalisation est-elle difficile ? Farhad Khosrokhavar est sociologue.
L'un des principaux obstacles est la laïcité, l'idéologie selon laquelle l'État, le gouvernement ne devrait pas interférer avec la religion qui est une affaire privée.
Le gouvernement tente maintenant de cibler les musulmans marginalisés à un plus jeune âge, ce que soutient l'activiste d'origine marocaine Latifa Ziatène, dont le fils, un parachutiste français, a été tué lors d'une attaque terroriste en 2012.
Aujourd'hui, un jeune, au lieu de regarder dernière section de maternelle, le suivre jusqu'au collège. C'est le contraire. On va suivre l'enfant de collège et c'est un peu trop tard.
Un avis que partage Adèle Djemaï, l'un des acteurs de la pièce de théâtre Jihad, qui raconte l'histoire de jeunes musulmans belges radicalisés en Syrie.
Comme je vous disais, le sujet est très complexe, les responsabilités sont multiples et on ne peut pas mettre ça uniquement sur le dos de l'État.
Après la fermeture du centre de Beaumont-en-Veyron, le gouvernement du président Emmanuel Macron affirme étudier la possibilité d'ouvrir d'autres structures de petite taille pour combattre la radicalisation en France.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, zouk, reggae, salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
quelques notes de reggae pour faire sourire Michel Joseph et vous aussi qui nous écoutez, espérons-le. C'était, vous l'aurez reconnu évidemment, Bob Marley and the Wailers. One Love, c'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Merci à Michel Joseph qui était à la console assisté de Joe Gill. Je suis Anastasie Tudiesch. Ainsi va le Monde Aujourd'hui. Restons en contact via Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique.